RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour évoquer un peu de cette actualité du monde du football. Et pour commencer, eh bien, cette sixième finale de Coupe du Roi pour les Blaugrana au rendez-vous sans discontinuer depuis 2014. L'équipe de Catalogne a gagné le Classico en assommant les Madrilènes hier soir sur leur pelouse. Un doublé de Suarez et au total trois buts du Barça en deuxième mi-temps. Aucun but du Real, des Merengues qui ont laissé échapper la finale. Dans quel état d'esprit aborderont-ils donc le prochain Classico samedi après cette défaite? Les Reds ne perdent pas la tête, Liverpool reste leader de Premier League. Un petit point toujours devant les Citizens. Les hommes de Jürgen Klopp se sont rassurés avec un score fleuve et un record personnel pour Sadio Mané, l'international sénégalais auteur d'un doublé. Le titre se jouera entre eux, estime l'entraîneur Pochettino, l'entraîneur des Spurs, largement battu par les Blues de Chelsea qui ont offert un sursis à leur coach Maurizio Sarri. Et puis la grande affiche de Ligue 1 ce week-end aura pour cadre le Vélodrome et une rencontre opposant l'OM au Vert, deux équipes du championnat de France qui se battent pour une place européenne. Il ne faut plus semer des points en route, mais y a-t-il un favori pour ce match? Eh bien, nous allons le demander à quelqu'un qui est passé par ces deux clubs il y a quelque temps déjà, mais qui a peut-être son cœur qui balance encore entre les deux. Bonjour Joseph-Antoine Bell.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à tous.
Votre cœur penche plus d'un côté ou de l'autre? Ça se dit pas.
Je ne veux fâcher personne, mais je dois quand même dire que logiquement, j'aurais dû être au Vélodrome ce week-end.
Et vous n'y serez pas?
Je n'y serai pas parce que je me suis entendu avec le coach pour dire que c'est pas ce week-end que je remplace Steph. Ce sera dans deux mois. Ce sera dans deux mois. Donc, je reviens au Vélodrome. Donc, vous voyez qui m'a mené au Vélodrome.
Je me disais peut-être que vous auriez donné le coup d'envoi. Qui sait?
Ah, le coup d'envoi. Hein? Non, j'allais pour jouer. Vous n'allez pas tout dire. Non, j'y allais pour jouer, mais simplement, j'ai estimé que Steve était bel et bien en forme. Ouais. Donc, il fallait patienter un peu. Je viendrai au secours dans quelques semaines. Mais évidemment, quand on va quelque part, on souhaite la victoire de ceux qui vous invitent.
Bon, non. En l'occurrence, c'était donc les Marseillais. Mais il y a un Marseillais aussi. Alors lui, il n'a pas joué à Saint-Étienne et il a connu Joseph-Antoine Bell il y a bien longtemps. Marc Libra, bonjour.
Exactement, je l'ai croisé. Oui, bonjour Annie, bonjour à tous. Je suis
ravi
d'être là.
Vous étiez tout petit à l'époque.
Et j'étais tout petit, j'ai suivi.
C'était un minot. Ouais.
Exactement, un gamin.
On en parlera tout à l'heure de ses souvenirs à l'évocation de ces clubs. Et puis il y a Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi, c'est plutôt un peu plus vers l'est que mon cœur porte, mais on en parlera plus tard.
On sait, l'OGC Nice, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans l'actualité. Et puis il y a Bruno Constant qui, lui, est dans l'actualité. Non, mais Patrick, il est tout terrain, donc c'est pas un problème, il le
Je
sait.
Sais.
Et puis il y a Bruno Constant qui, notamment, mais nous parlera aussi d'autre chose, nous parlera de foot anglais. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie. Et moi, j'étais plutôt
goal.
Pas ni Marseille ni Saint-Etienne, mais plutôt Bordeaux.
Ah, c'est bon,
et
ouais.
Des souvenirs d'enfance, parce que Joseph-Antoine Bell, c'était un rêve pour les enfants qui étaient gardiens de but. Il avait des maillots magnifiques. Et voilà, on rêvait tous d'avoir le maillot de Joseph-Antoine Bell.
Et ben voilà, ode à Joseph-Antoine Bell dans cette émission aujourd'hui. Radio Foot, c'est parti.
La acción de Dembélé, el balón atrás, la llegada de Luis Suárez. Centro de Dembélé, va a marcar Suárez. Gol del Fútbol Club Barcelona, marcado Luis Suárez. Suárez, pues a Lopalenca. Suárez, el tercero para el Barça.
Et 2-3 pour le Barça, 3 au crédit de Luis Suárez, même si Raphaël Varane a finalement marqué contre son camp juste avant Suárez, mais les deux sont retrouvés dans le but à se disputer le ballon. Et le Barça a donc atomisé le Real sur sa pelouse devant son public, un public merengue dépité par le scénario de ce match. Les joueurs du Real Madrid avaient plutôt bien commencé. Une assez bonne première mi-temps, mais aucun but. Et puis les attaques barcelonaises se sont faites plus précises, plus incisives. Et le coup de grâce fut ce pénalty concédé par Casemiro. Mais les Blaugrana étaient trop forts, reconnaît l'entraîneur des Merengues, Santiago Solari.
Bueno, tristes. Queríamos jugar esta final.
Je suis triste, car nous voulions jouer cette finale. Nous avons fait tout notre possible, mais ils ont vraiment été au-dessus. On a travaillé très dur, on a mis toutes nos forces dans ce match, les joueurs ont tout donné. On a fait un match sérieux, créatif, avec beaucoup d'occasions, mais ça n'a pas suffi pour aller en finale.
Trop fort ces Catalans, Marc, hier soir ?
Je suis même pas sûr parce que c'était pas forcément un grand match. On n'a pas vu une grande équipe, mais comme depuis le début de l'année, on se régale pas. On attend l'exploit individuel. C'est vrai qu'il arrive rarement par Suarez. Hier soir, il arrive par Suarez parce que Messi était peut-être un petit peu en dedans.
On l'a pas beaucoup vu, effectivement.
Ce que je regrette, c'est que Madrid, par rapport à Vinicius, qui a été simplement un petit peu maladroit parce que Vinicius est quand même très impressionnant. C'est aujourd'hui le joueur, on envoie le ballon, il doit faire la différence, quoi. C'est-à-dire que ça passe pas loin.
On se repose peut-être trop sur lui, d'ailleurs.
Ah ben là, aujourd'hui, on se repose beaucoup sur Vinicius. C'est ça qui est quand même assez dingue. C'est un gamin qui, il y a quelques semaines, n'existait pas, qui n'était pas dans le décor.
Mais qui a 100 matchs en tant que joueur professionnel, ce qui est quand même pas mal.
Oui, mais on le découvre là, et puis il est capable de faire la différence, mais il lui manque ce petit brin de réussite parce qu'il y a même 2-3 occasions sur la première période, dans les 25 premières minutes où il doit marquer. Malheureusement, il ne marque pas. Benzema fait le boulot qu'il doit faire. Ça, après, il touche pas de ballon, donc il décroche. Mais c'est pas un grand Barça qui a pris la mesure de cette équipe de Madrid qui est, pour moi, actuellement, assez faible. Mais après, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire à l'Ajax, c'est une autre équipe, quoi, en fait. Je sais, c'est le paradoxe de cette équipe.
C'est un peu tout l'un ou tout l'autre avec le Real en ce moment, Joe.
Mais il faut se rappeler qu'ils viennent de loin. Il y a pas si longtemps, ils étaient quasiment en crise. Donc, on peut leur pardonner de tâtonner un peu. Mais après tout, ils ont perdu contre une équipe qui est première avec, je sais plus, 17 points maintenant d'avance.
Oui.
Donc, il n'y a pas...
Il y a 9 points entre eux et le Real, en tout cas.
À part le fait qu'il y a une rivalité historique, mais en temps normal, si le troisième perd contre le premier qui a cet écart...
C'était pas vraiment au niveau, peut-être, de cet enjeu historique.
Non, mais justement, le truc, c'est que tout le monde, il le disait, Marc Messi était en dedans. Non, ça, c'est tant mieux pour le Barça. C'est-à-dire que là, on a vu l'exemple... Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ce que font beaucoup d'équipes aujourd'hui qui joue contre le Barça, c'est de se dire, il y aura, à chaque fois que Messi va toucher, on fait semblant, tout le monde déclare, on va pas s'en occuper, mais on voit bien que chaque fois qu'il touche le ballon, ils sont 3 ou 4 sur lui. Et hier, moi, j'avais l'impression que pour une fois, Messi avait décidé bien à l'avance que c'est pas lui qui ferait la différence. Venez toujours, on verra, ça se passera.
Et les autres le font.
Donc voilà, et là, Suarez est sorti de la boîte et c'est lui qui a fait la différence. Mais ce que disait aussi Marc par rapport au Real, c'est arrivé souvent dans les équipes. À un moment, vous vous réveillez, vous vous dites, mince, on est quand même en train de compter sur un tout jeune.
Un gamin.
Voilà, on est en train, l'équipe attend que le gamin fasse la différence, il y a quelque chose qui va pas.
Ouais.
Et en même temps, ce qu'il y a de bien pour le gamin, c'est que comme il est gamin et qu'on l'attendait pas là, on peut pas oser le critiquer. Hier,
c'est lui qui a mis un petit peu la lumière.
Voilà, c'est lui qui fait lever la foule.
Mais du coup, on a presque l'impression que ses coéquipiers se cachent un peu derrière lui.
Absolument pas l'impression.
Parce qu'aucun prend ses responsabilités. Benzema, il a une grosse occasion. On en parle beaucoup ces dernières semaines, mais faisant le meilleur France, etc. Il a une énorme occasion.
La frappe sur une passe un raté de Vinicius.
Et moi, j'ai trouvé le Real plutôt bon, même presque meilleur que le Barça pendant une heure. Il se propose, il récupère les meilleures occasions. Vinicius, ça passe souvent par Vinicius, beaucoup trop même par Vinicius. Et d'ailleurs, le Barça est ultra réaliste, quoi. Et les occasions qu'a marqué le Barça, c'est celles que le Real n'a pas été capable de mettre en première période.
Moi, j'ai trouvé en fait que le Barça avait battu le Real de la même manière que le Real avait battu l'Ajax en Ligue des Champions. En huitième de finale, on reste un peu autour du... On se regroupe un petit peu et on profite des failles de l'adversaire en fin de match quand il est un peu usé. Mais globalement, je suis d'accord avec Bruno.
Ils ont souffert défensivement, le Barça, quand même.
Ah oui.
Il y a Vinicius devant. Et ce Vinicius, regardez, lorsqu'il a cette énorme occasion qui se crée, qu'il bute sur le gardien, c'est ça qui montre qu'il sera vraiment grand. Il a la lucidité derrière de plus te donner à Benzema et de pas essayer absolument de se rattraper tout seul.
Ouais, après moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait des faiblesses, parce qu'on parle des faiblesses offensives, du manque de réalisme, il y a eu des faiblesses défensives.
Ah oui,
sur le premier but, Sergio Ramos, qu'est-ce qu'il attend pour intervenir? Varane, alors ok, c'est, il tente une intervention difficile, mais il la rate, hein, donc ça finit dans son propre but. Bon, le penalty, c'est pareil, il n'y avait pas urgence à tacler à ce moment-là, comme Casemiro l'a fait. Donc, il y a quand même, j'ai l'impression que le Real a compris qu'ils ne gagneraient pas, que ça ne passerait pas et qu'ils ont un peu lâché. Et que maintenant, ils vont reporter, je pense, un peu leur honneur sur le prochain match, essayer de se rattraper en championnat.
On va y venir à ce prochain match. Joseph-Antoine Bell, quand on se permet de faire une panenka sur le troisième but, c'est une petite provocation, un défi par rapport à un stade qui vous est hostile?
Non, je ne crois pas que les joueurs fassent un tel geste en se disant « je vais défier quelqu'un ». Pour le faire, il faut maîtriser la technique. Donc, il faut être sûr de ce qu'on fait. Je peux en parler parce qu'il y en a un, quand d'ailleurs, je me suis aperçu que lui s'en souvenait plus que moi, c'est Vahid Halilhodžić. Quand je jouais à Marseille, il est venu avec Nantes et il a fait la panenka. Sauf que j'avais pas bougé. Donc, je lui ai arrêté son penalty d'une main. Donc, je ne crois pas qu'il voulait me chambrer. Mais, simplement, le geste est si beau que quand il réussit, on a l'impression qu'on a chambré le gardien. Mais c'est un geste qui, logiquement décortiqué, ne peut que se terminer par un but, puisque le gardien va partir et que le ballon arrive au ralenti. Donc, il n'a pas le temps de...
Mais hier, ce qui était un peu amusant, c'était ça, c'était le troisième but des Barcelonais à Bernabéu.
Oui, c'est vrai.
De Suarez
et
qui,
Messi lui laisse. Messi
oui,
lui dit,
en plus, exactement. Et donc, d'un Suarez qui est soi-disant un peu dans le doute.
Que Suarez est dans un grand jour, tout lui réussit. Et bien, l'autre jour, j'ai marqué 3. Vas-y.
Exactement.
Et lui, justement, pourquoi il attend? Parce que il a l'assurance du gars qui a déjà marqué, qui appartient à une équipe qui mène. Et donc, au cas où ça ne marcherait pas, c'est pas grave. On est à la 87e. Si le troisième but ne vient pas, c'est pas grave. Et c'est les meilleures conditions pour réussir le geste technique, parce qu'il va être relâché, il n'a pas la pression.
Sauf quand on s'appelle Zidane et qu'on est en finale de Coupe du Monde, n'est-ce pas?
C'est autre chose.
Alors, les Blaugrana ont assis leur emprise, on a vu hein, au fil de la deuxième mi-temps, mais sans pour autant être spectaculaire, c'est ce qu'on dit, c'est pas un grand cru ce classico. L'essentiel en tout cas, eh bien, c'est d'être en finale, rappelle Gérard Piquet. Il est au micro de notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon.
Oui, bien sûr, nous sommes heureux. Nous sommes encore en lice dans 3 compétitions. On a mal joué ? Bon, voyons ça de manière positive. Si on dit qu'on joue mal mais qu'on gagne 3-0, non, en ce moment, on joue contre des équipes très difficiles. Il y a eu Séville, ensuite le match aller contre le Real, Lyon. En fait, je crois que tous ces matchs-là doivent être pris comme un message.
Alors évidemment, le message, on le comprend très bien, hein, celui des Blaugrana. On est en tête et eux, ils pensent déjà au prochain match. Mais quand même, on parlait de Luis Suarez qui était hier en forme, très clairement. Mais celui qu'on a peut-être beaucoup vu hier aussi, c'est Ousmane Dembélé, Patrick Juillard. Lui, qui est un peu en dents de scie dans cette équipe, on se demande toujours s'il s'est intégré ou pas à l'esprit barcelonais, on a peut-être la sensation qu'en ce moment, ça prend, quoi.
Oui, alors, moi, je ne serais pas aussi enthousiaste. Je pense qu'il bénéficie du fait que, par ailleurs, le Barça manque un peu, cette année, je trouve, de créativité et se repose beaucoup sur des exploits individuels, mais pas vraiment sur une construction très aboutie, comme à l'époque
de Guardiola,
ou même Luis Enrique, qui était
c'est révolu,
nettement
nous a dit le au-dessus. C'est fini.
Et donc là, Dembélé, il a bénéficié quand même des largesses des latéraux du Real sur les deux buts, parce qu'il y a des boulevards devant lui. Hein. Je ne dis pas que ça n'enlève rien à ses mérites de vitesse, de tranchant, mais ce n'est pas des exploits. Après, il fait des belles passes lucides pour les centres, mais c'est pas, moi, je ne trouve pas qu'il y a une opposition extraordinaire, mais il est au moins là, il est au moins efficace. Quoi. Il fait des stats, mais je ne suis pas sur la durée, sur la globalité, je ne suis pas encore 100% convaincu.
Bruno.
Non, mais c'est toujours pareil, quand le Real laisse des espaces dans son dos, c'est le danger avec un joueur comme Dembélé qui apporte de la vitesse à l'équipe du Barça, qui en a très peu finalement. C'est plus une équipe de possession ou de transition. Et effectivement, je ne trouve pas qu'il ait fait un match extraordinaire, mais par contre, quand il est décisif et il l'a été... C'est bien de souligner aussi parce qu'il s'inscrit de plus en plus dans la durée.
Sur le centre.
Voilà, il fait au moins les gestes justes et voilà, c'est faut le. Il y a quelques mois, il était quand même à la cave. Hein,
exactement.
On en parlait.
Joe, il y a une évolution peut-être quand même chez ce joueur. On voit qu'il agit autrement.
En fait, il a un problème. Je ne sais pas si c'est son âge, mais il est capable de faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, sauf que peut-être à cause de tout ce qui l'entoure, souvent il a la tête dans le guidon et il voit pas. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que sans être au top, comme disait Patrick, c'est que au moins il fait des stats. Donc ça va lui permettre de se mettre en confiance et de lever la tête. Je parlais de Vinicius tout à l'heure qui a buté. Je suis sûr que Dembélé qui bute aurait essayé une deuxième fois lui-même de marquer en se reprochant d'avoir pas marqué la première fois. Alors que Vinicius a eu l'intelligence, la lucidité. J'ai buté, il y a Karim tout seul, je lui mets. Donc souvent, Dembélé, ce qui lui arrive, on se demande d'ailleurs où il va, il fonce avec le ballon, il y a des adversaires, il y a que lui qui les a pas vus. Bon, mais pour l'instant, tant qu'il fait des stats comme là,
oui,
c'est bien, ça va lui permettre de se redresser un peu, de se relever.
C'est assez étrange de voir que le Barça aujourd'hui part des 50 mètres, on pousse et on court. C'est-à-dire qu'il y a un manque terrible de milieu de terrain de qualité dans ce Barça. Et tant qu'ils en.
Arthur était blessé, il est rentré en fin de match.
Tant qu'on ne récupérera pas un milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, si on me dit le jeu du Barça, c'est devant les bancs, allez, tu pousses sur 20 mètres et j'accélère parce qu'on a vu ça plusieurs fois hier. C'est triste pour le Barça. C'est-à-dire que c'est là où Dembélé, il rentre très bien dans le système, mais si ça vient évoluer, qu'il va falloir réfléchir beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire. Uniquement, il n'y aura pas que la vitesse, il y aura l'anticipation, il y aura des choses à créer. Peut-être que là, il sera trop court.
Je pense que je ne vais pas les critiquer parce que un entraîneur joue avec les joueurs qu'il a. Or, en ce moment précisément, le Barça a Dembélé. Pourquoi ne pas jouer avec Dembélé?
Surtout qu'il n'y a plus de concurrence.
Donc,
Coutinho, quand il joue, il n'est pas bon.
Voilà, le Real monte et croit jouer bien. C'est comme ça, automatiquement, si vous êtes monté, vous avez les 50 mètres derrière le dos. Sauf que le Barça a le jeu. Si c'est Coutinho, parce qu'on peut pas faire la même chose. Or là, on a Dembélé, donc c'est logique, je peux pas lui reprocher de faire ça. Parce que si vous avez une équipe qui est à 50 mètres de son but, et que vous avez un type comme Dembélé qui va plus vite que tout le monde, on utilise ça. Le résultat, c'est que l'adversaire, obligé de réfléchir, est-ce que je monte, est-ce que je recule, je desserre un peu les traînes, parce que quand je monte, je suis en danger dans le dos, donc il recule un peu, et s'il recule, Messi se retrouve à 30 ou 40 mètres du but, le Barça, là aussi, a la solution. Donc, c'est vrai que c'est pas le même Barça, mais n'oublions pas ce qu'attendent tout le monde, les dirigeants comme le public, et l'entraîneur notamment, c'est de gagner. Donc,
et les voilà qualifiés.
Voilà, qu'on ait fait 1000 passes dans le match ou qu'on n'en ait fait que 100 si on a gagné. Et là, gagner au Real Madrid 3-0. Si Valverde nous entend parler, il nous dira, vous êtes pas sympa les gars. Si tu gagnes 3-0 au Real, qu'est-ce qu'on te demande de plus?
Alors les voilà en finale, depuis 2014, ils sont toujours en finale, les Barcelonais. En 2014, ils avaient perdu face au Real, cette fois-là. Mais depuis, c'est eux qui gagnent cette Copa del Rey. Quelle peut être l'influence de ce match dans les têtes, Marc, pour samedi? On aura le même cadre, ça sera Santiago Bernabéu, ce sera évidemment les deux mêmes équipes qui se retrouvent face à face dans un autre contexte, le championnat, et où là, on le disait tout à l'heure, 9 points d'écart entre les deux. Si le Real rêve encore éventuellement de rattraper le FC Barcelone, ça sera ce jour-là. Il y a l'Atlético en plus entre eux. Est-ce que ça peut être un match totalement différent ou est-ce que cette défaite va les plomber?
Ben là, c'était déjà un match retour, puisque il y avait un partout, on pouvait se permettre de dire si on prend pas de but, on est bien finalement, on prend des buts et on s'en sort pas. Donc il fallait
parce qu'au 0-0, c'était le Real qui était
partout,
qualifié.
Voilà, exactement.
Mais 0-0 n'était pas réaliste.
Moi,
j'avais lu des commentaires du Real qui avait fait un grand pas vers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quand tu fais 1-1 contre Barcelone, ou que soit le prochain match, tu peux pas dire, puisque Barcelone va marquer un but. Donc, le 0-0, non, non.
Là, il peut y avoir une suprématie par rapport au championnat en disant on veut faire du mal à notre ennemi. C'est-à-dire que le supporter qui va rentrer là, c'est pour la mise à mort, pour dire bah, il faut les battre, il faut les mettre dessous. Quoi.
C'est non, tout. Mais ça va être clairement
le championnat. Ils vont y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une enclume dans les têtes là avec cette défaite 3-0?
Oui.
Il faut les mettre. Qui va les mettre dans l'eau? Le Real ou le Barça? Moi, je pense que c'est le Barça qui va se dire qu'il faut les achever.
J'ai cru que
la mise à mort, c'était celle du... Ah non, c'est les Barcelonais.
Admettons que même les Madrid gagnent, mais ça fait quoi au championnat? Ça change rien, parce que Madrid
est de Barça. Ils sont à 6 points.
Ah bah non, ça fait 5 ans que le Real n'a pas gagné un Classico à domicile, il serait temps de s'y mettre.
Oui, dans le championnat, ça ne change rien.
Ça ne change rien,
c'est pour l'honneur.
Ils doivent essayer de gagner pour l'honneur.
Allez dire ça aux supporters du Real, ça change rien, donc on peut perdre. Non, ils veulent gagner.
Non, c'est l'honneur.
Ils veulent gagner. Tous les supporters du Barça et les joueurs du Barça veulent les mettre dedans.
Voilà. Ce que Marc veut dire, c'est que la rivalité qu'il y a, la rivalité qu'il y a fait que le Barça ne va pas lever le pied. Et il va venir pour se dire bon, on les a battus il y a 4 jours, mais je vois d'ici le discours de Valverde. Le Real ne peut pas perdre deux fois, donc faut bien qu'on se méfie. Il faut qu'il motive ses gars parce que sinon ils vont lever le pied. Non, faut pas lever le pied. Il faut aller les achever. Et ce que Marc dit, c'est ce qui va se dire dans le vestiaire. C'est que comme ils sont mal, les gars, justement, vous ne vous relâchez pas. Il faut absolument en profiter. Il faut qu'ils
ils sont pas si mal que ça. Ils ont fait un mauvais match dans les deux surfaces. Ce qui est gênant en football, mais sur le jeu, dans l'ensemble, ils sont pas si mal que ça, le Real.
Oui, mais quand tu perds 3-0 à la maison, Patrick, je peux te dire...
déjà, dans la tête, oui, t'es mal.
Dans les grandes équipes, prendre un but à la maison, c'est déjà le ciel qui te tombe sur la tête. Quand il y a un but, je sais pas si c'est devenu ordinaire, mais quand tu prends un but au Vélodrome, t'as le ciel qui te tombe sur la tête.
Parce que les supporters maintenant.
Tes supporters ne s'y attendent jamais. Eux qui pensent que tu dois avoir marqué au moins un but en étant encore au vestiaire. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez, pour eux, c'est déjà 1-0. Alors quand vous prenez un but, alors là, perdre 3 contre le principal adversaire, quelques années, ça doit faire très mal à Marseille lorsque Paris vient gagner à Marseille. Ah, ça, c'est... Donc, j'imagine là-bas, Barcelone qui vient gagner.
Oui, et en plus, même à l'époque de Zizou, on s'en souvient, c'était un 23 décembre, le Real Madrid avait perdu chez lui sur le score déjà de 3-0. Il y a eu cette manita il n'y a pas si longtemps, c'était au Camp Nou.
Ça fait presque 50 ans que le Real ne s'est pas qualifié contre le Barça à domicile en Coupe du Roi.
Ouais, comme quoi, hein, c'est compliqué. Juste une petite parenthèse, avant qu'on passe au football anglais. Joseph-Antoine Bell, il y a des envies, paraît-il, du côté du FC Barcelone de recruter un numéro 2 comme gardien, qui est le jeune qui actuellement garde les cages et très bien, selon tous les observateurs de l'Ajax, c'est André Onana, un jeune Camerounais, 22 ans, qui est passé par la Fondation Samuel Eto'o, mais qui est aussi déjà passé par le Barça avant. Est-ce que c'est un digne héritier, ce lion indomptable?
Je pense que oui, ils sont deux, mais je pense que oui. Je pense qu'il est très bon. Il a fait quelque chose, je ne vais pas dire d'extraordinaire. Dans le métier, c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut être prêt. Il est arrivé à l'Ajax pour être numéro 2.
Oui.
Faut se rappeler de ce grand gardien néerlandais là qui était en Angleterre et c'est lui qui devait être le titulaire, qui arrêtait le penalty, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Et puis donc il s'est blessé. Et là, Onana
en
a pris la place et a été tellement à la hauteur que son entraîneur, au retour de... Je sais plus comment il s'appelle ce gars. Au retour du titulaire, il lui a dit quelque chose que tous les bons entraîneurs savent. Si l'équipe est match, pourquoi tu veux que je la change?
Oui.
Donc,
il y a 116 matchs avec l'Ajax.
Et voilà. Et donc, Onana n'a plus jamais... Et c'est, d'ailleurs, avec ça, il a eu des problèmes avec les dirigeants du foot camerounais qui comprenaient rien. Puisque dans le foot camerounais, il était remplaçant. Bon. Et ils l'ont appelé pour la CAN de 2017. Et le petit, qui a été lucide, a dit « je peux pas venir ». Si je viens pour être remplaçant, alors qu'ici j'ai gagné durement ma place et il y a un titulaire qui attend au show, ouais. Si je pars là-bas, je joue même pas, quand je reviens, j'ai perdu ma place et ma carrière, je sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc je peux pas venir. Gardez le titulaire que vous avez, je le conteste pas, mais...
En plus, moi, avait fait une très bonne canne, Fabrice Ondoa.
Oui, après, Fabrice Ondoa a fait une très bonne canne, mais ça c'était avant. Les autres l'ont appelé pour venir être remplaçant et ouais. Il a dit non, je peux pas. Et beaucoup de gens n'ont pas compris, ils ont dit n'importe quoi. Non, c'est juste un problème de carrière.
Le gardien néerlandais dont nous parlait Joseph Antoine, c'est Jesper Silesen qui est parti ensuite.
Comme numéro 2 actuellement.
Devinez où, au Barça.
Au Barça, oui, oui.
Donc, moi, je pense que ce garçon a déjà montré beaucoup de caractère en arrivant, remplaçant, très bien, il n'y a pas de problème, mais...
Numéro 1, on l'a beaucoup vu l'autre jour dans le match face au Real, justement.
Voilà, dès la première blessure.
Mais Joseph, par exemple, ça serait bien pour lui d'aller numéro 2, parce que Ter Stegen, c'est un des meilleurs, et il va peut-être pas le déloger. Oui. Est-ce que c'est un bon choix pour lui d'aller au prestigieux Barça, ou peut-être pas?
Non, c'est là le problème. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que...
Non, eux, ils ont envie, mais après, effectivement...
Oui, le Barça veut bien... Pour se dire, chaque fois que Ter Stegen ne joue pas, on aura un gardien de très très bon niveau. Mais il y a quand même une chose, rien ne remplace le match. Vraiment, ça m'est arrivé une fois. Et c'était à Saint-Étienne, où je sais pas si j'étais blessé ou sentiné ou je sais plus quoi, où j'ai pas joué un petit moment. Mais où dans ma tête, je me disais, ouais. Non, ben c'est bon. Non, quand tu reviens, le match, c'est pas... Donc, si tu joues pas les matchs, l'entraînement ne remplace pas le match. À l'entraînement, c'est incroyable comme ces choses-là, on ne sait pas qu'elles sont si importantes. Le repère de l'arbitre de touche qui court, le repère du terrain qui est tracé, les joueurs qui ont des maillots et les tribunes et tout ça. Et là, je m'étais bien rendu compte que l'entraînement, oui, on peut être bon à l'entraînement, mais si on joue pas les matchs régulièrement, on perd ces repères-là. Et bon.
Donc il faut faire le bon choix.
Il faut faire le bon choix
pour
savoir combien de matchs être remplaçant au Barça. En fait, pour être concret, c'est pas que je lui dise aujourd'hui, il faut dire non. C'est qu'il faut calculer. Il y a combien de matchs pour toi ?
Oui. Le Barça, effectivement, joue en général sur tous les tableaux, donc un calendrier chargé.
Oui.
C'est un club aussi qui a eu l'habitude parfois de faire des rotations au poste de gardien de but.
Oui.
Et ça se fait moins qu'avant. Hein.
Mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, Ter Stegen, dans son niveau actuel, il puisse accepter une rotation. C'est...
Donc, surtout qu'il était au début, elle était instaurée. Donc maintenant, le problème, c'est s'ils veulent le prendre, il faudrait que lui fasse le calcul. Combien de matchs on va me laisser dans l'année ? La Coupe du Roi, ça fait combien matchs, je ne sais plus quoi, les matchs amicaux, il faudrait qu'il ait un nombre de matchs qui lui permettent de se maintenir
et de continuer
à progresser et continuer à se faire voir. Or, Ter Stegen n'est pas âgé.
Non.
Donc, si on le remplace par un jeune qui est bon et qui continue de progresser, c'est pas un plan de carrière.
En tout cas, on le verra bientôt. Donc, ça sera à Santiago Bernabéu, lui aussi, puisqu'il jouera le match retour Real Ajax.
A statement performance.
Et de 5 buts pour bien marquer leur territoire et garder la première place de la Première Ligue. Les Reds ont réussi durant cette 28e journée à maintenir leur mince avance en écrasant Watford, alors que les Citizens, eux, n'ont pas non plus flanché face aux Hammers. Ils restent au contact. Les joueurs de Jürgen Klopp ont surtout retrouvé le chemin des filets après 2 matchs nuls. Origi, Van Dijk ont marqué, mais surtout Sadio Mané, le Sénégalais, qui a battu son record personnel. 14 buts désormais en Première Ligue. Son meilleur total était de 13 et c'était en 2016-2017. Écoutons son entraîneur, son coach Jürgen Klopp, trop heureux de ses attaquants.
Played C'est formidable de pouvoir s'appuyer sur un joueur pareil. Sa performance est incroyable. On ne pouvait rien faire non plus contre Mo Salah. Sans marquer dans ce match, c'est une prestation exceptionnelle. Sadio Mané a marqué un but magnifique. Il fut une menace constante. Il était partout. Il était derrière. Il était au milieu. Il était impliqué. Il a fait de bonnes passes. Il volait littéralement sur le terrain. Il était agressif. C'est une performance de très haut niveau. Je suis vraiment content pour mes gars. Cette victoire est bien méritée.
Sadio Mané, Joseph Antoine Bell, c'est toujours comment dire l'attaquant. Il dit il était au très haut niveau, mais c'est rare qu'il soit pas au très haut niveau finalement. Lui avec Salah et Firmino.
Si Liverpool est là où il est, c'est bien parce qu'il a ce trio là qui est toujours au très haut niveau. C'est
alors ils ont des moments un peu là, ils sortaient de deux matchs nuls. Alors du coup on s'inquiète.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est que au départ ces trois là ne faisait pas partie de ceux sur qui on peut compter pour le très haut niveau. Donc, quand ils sont apparus au très haut niveau, tout le monde s'est dit, c'est peut-être pour un petit moment et ils vont disparaître. C'est pour ça qu'on a tendance à les regarder un peu, à surveiller un peu comme du lait sur le feu en se disant, est-ce que, bon, le soufflet est retombé. Mais maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait depuis, je pense, 2 ou même 3 ans, ils doivent être considérés comme installés parmi les grands joueurs au monde.
Alors Bruno, évidemment, hein, Liverpool rêve de ce titre, on le sait et on le répète souvent depuis le temps qu'ils ne gagnent pas cette première ligue. La différence est ténue hein, avec Manchester City qui a gagné hier soir aussi, alors plus difficilement, 1-0 seulement quand eux ont mis 5 buts. Mais est-ce que cette manita tombe vraiment au bon moment pour les Reds?
Bah oui, parce que quand on regarde leurs derniers résultats, ils restaient sur 4 nuls en 5 matchs, toute compétition. Donc ça commençait pas à grincer des dents, mais à se poser quelques petites questions. Il y avait un petit coup de mou, quoi.
Voilà.
Et Liverpool était moins fringant que la saison passée, toujours il y a moins d'intensité. Et là, je pense que c'est ce qu'a dit Klopp. Il a dit là, on a joué de la façon dont je rêve qu'on joue à chaque match. C'est-à-dire que cette grande intensité, c'est un jeu offensif avec des défenseurs qui participent au jeu. Là, il y a 5 passes décisives qui ont été réalisées par 2 défenseurs, les 2 latéraux. Il y a eu un doublé du défenseur central Van Dijk. Il y a eu vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis il y a eu Mané. Et Mané dans un rôle où on le connaît un petit peu moins, position axiale en l'absence de Firmino.
Il n'a pas le choix.
Et absolument. Voilà, Firmino est blessé. Donc c'est une autre solution, une autre option qui s'offrait à Klopp et ça a plutôt bien marché. Et l'homme en forme aujourd'hui de Liverpool, c'est Mané. Lors des 11 derniers buts inscrits par Liverpool, Mané en a inscrit 6. Donc il vraiment pèse tout son poids dans cette équipe. Et ça revient aussi à un moment important, parce qu'il y a la Ligue des Champions et ce match retour face au Bayern qui approche. Ils ont fait 0-0 à l'aller. Et même si la priorité au championnat, on peut pas totalement écarter la Ligue des Champions. Ils ont besoin.
Ils étaient finalistes l'an dernier. Déjà, ils veulent confirmer effectivement un peu leur statut. Marc, ce Liverpool vous séduit, vous rassure?
Quand Mo Salah est dans cet état-là, je crois qu'on peut rien faire. Je crois qu'hier soir, sur le deuxième but, il fait une accélération sur le côté droit, où littéralement, il a 2-3 mètres de retard, il pousse, puis il passe devant son défenseur, il a été très impressionnant. Le jeu de Klopp, il a raison, bien sûr que tout le monde, le problème, c'est qu'il faut que les joueurs soient au top, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que ça ne vous permet pas d'avoir, de se dire, ah ben là, j'ai un petit peu mal avant le match, bon, ça va aller, je vais gérer, j'ai mal, mais je vais tenir. Là, c'est-à-dire que lui, il faut être au top tout le temps. C'est-à-dire que le moindre petit pépin. Et là, on se dit, Firmino est absent. Amen, c'est inquiétant. Origi qui rentre, il est sur le côté gauche. Et finalement, Sadio Mané qui joue dans l'axe. Et Sadio Mané qui perturbe tout parce que les joueurs se disent, bon, on a Firmino qui est un point, qui est un peu tricheur, qui dribble, qui va rentrer. Là, Mané, lui, se balade partout. C'est-à-dire que là, d'un coup, on est défenseur central. Qu'est-ce qu'on fait? On sort pas. Le but qu'il met, le deuxième but, la talonnade, il est presque devant, mais il revient, il se tourne, il talonne. C'est-à-dire que personne s'attend à ça. C'est un but d'anthologie qui va rester dans l'histoire. Je pense dans la première ligue parce que une talonnade, même le gardien sort, il s'attend à aucun moment. Normalement, un joueur, mais et voilà. Donc c'est vrai que moi qui suis aussi la première ligue, City était très en forme, n'a pas eu de coup de mou. Ils l'ont peut-être eu sur ce match-là. Liverpool a eu le petit coup de mou et là ça revient bien. En fait, les deux équipes, mais chaque fois qu'ils sont dans le dur, ne perdent pas. Ils perdent pas.
Ben
et il faut bien se dire qu'aujourd'hui l'avantage il est pour Liverpool parce que ça va se jouer au goal average. Ça continue comme ça, ça va jouer à la différence de buts.
Donc il faut que
là, c'est
ce
quoi
point...
C'est plus 6 aujourd'hui. Non mais là on est à puisqu'ils ont repris 4 buts sur eux, ça va se jouer à 6 buts d'avance.
Oui, tout le monde dit que ça valait à la dernière journée.
Ah non mais c'est...
Comme en 2012 avec
c'est ce qu'ils arrivent à faire
avec coiffé United sur le poteau.
C'est ce qu'ils font aujourd'hui.
Là, en l'état actuel des choses, Liverpool a pratiquement 2 points d'avance puisqu'ils ont le point du nombre du classement plus
c'est pour ça que les buts
la
sont
différence de buts.
Et oui, 5 hier soir, c'est énorme.
Effectivement, c'est intéressant, cette polyvalence des joueurs offensifs qui peuvent permuter plusieurs fois au fil du même match et qui désorientent d'autant plus une défense déjà en difficulté. Oui. Parce que bon, Watford, il faut dire aussi que Watford, les frelons, ils avaient perdu leur dard, là. C'était quand même assez, assez difficile pour
c'était
eux.
C'était des mailles à la belle.
voilà, j'ai bien aimé, moi, le petit latéral, Alexander Arnold, qui a quand même fait un triplé de passes décisives. Il faut le souligner parce que c'est un joueur qui a l'âge de Mbappé, hein. Ouais. On dit Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde dans les joueurs de 20 ans, mais Alexander Arnold, il est pas loin du podium aussi dans cette catégorie.
Ah, l'un des trois meilleurs latéraux à droite du monde.
Et pour 20 ans, quoi. Ouais. Hein, ouais, qui a été lancé un peu par effraction la saison dernière et qui maintient un niveau extraordinaire au fil des matchs. Et bon, chapeau à lui. Voilà, moi je trouve que Liverpool, malgré tout, il y a un peu plus de caractère, il y a un peu plus. Et ça va avec le foot, un peu heavy metal football de Jürgen Klopp. Mmh. Quand les joueurs mettent de l'intensité tous ensemble, c'est quand même une sacrée machine. Mmh. Manchester City, c'est un peu plus rationnel, un peu plus c'est très travaillé, mais ça manque de cette petite flamme, de cette petite étincelle.
Alors, à n'en pas douter, le titre se joue entre ces deux équipes et peut-être seulement entre ces deux équipes, puisqu'hier soir, Tottenham a perdu, battu 2-0 par Chelsea d'ailleurs. Alors, on y viendra après à Chelsea, mais Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin des Spurs, même en troisième position, a reconnu hier que la dispute pour la première place était perdue.
I think this is 10 months competition. It's not...
Je pense que c'est une compétition qui dure 10 mois et non 3, 4 ou 6. Évidemment, nous sommes déçus. Après le match contre Burnley, je vous avais dit que ce serait difficile de rester dans la course au titre. Maintenant, ça va être impossible de rester en compétition avec City et avec Liverpool. Seules ces deux équipes peuvent gagner la Première Ligue. Pour notre part, il faut continuer à gagner des matchs pour finir troisième. C'est cela notre challenge actuellement.
C'est fichu pour Tottenham. Vous êtes d'accord avec l'entraîneur Pochettino?
C'est fichu depuis le week-end dernier, en fait. Depuis la défaite à Burnley.
Ouais, ils ont enchaîné, les deux.
Ouais, ils ont raté une grosse occasion de se rapprocher des deux leaders. Ils perdent à Burnley, c'est quand même une grosse surprise. Même si Burnley est une bonne équipe de première ligue, est difficile à jouer sur son terrain. Mais la réaction de Mauricio Pochettino après le coup de sifflet final, quand il va un peu agresser l'arbitre de la rencontre, il y a une erreur en fait, d'arbitrage sur le but de Burnley. Ça a trahi un peu le fait que Pochettino, il avait senti que c'était fini et qu'il y avait de la frustration, énormément de frustration et de déception. Mais en même temps, c'est pas grave, quoi. Tottenham, on les imaginait pas du tout à ce niveau-là. Ils suivent une cadence City et Liverpool ont une cadence extraordinaire en première ligue. Et que Tottenham soit encore un petit peu dans la roue des deux leaders, c'est déjà exceptionnel.
Ouais. Mais Tottenham n'a plus recruté depuis pratiquement deux mercato. Ouais.
Ils ont perdu des joueurs.
Ils ont perdu du monde. Donc c'est tout le mérite de cette équipe qui n'a pas du tout la profondeur de banc que peuvent avoir City ou Chelsea.
Pochettino
ou United,
fait des miracles, c'est clair.
Il y a eu des grosses erreurs du gardien hier, de Hugo Lloris.
C'est plus le défenseur sur le coup. Hein.
Sur le deuxième, c'est Trippier.
On se sent abandonné dans ces cas-là, c'est ça?
D'abord, le poste par définition. Depuis le temps qu'il est jeune, il doit avoir compris que tous les autres peuvent rater une passe, tous les autres peuvent rater un contrôle, mais
lui,
le gardien de but, c'est rare.
Non, mais il a raté une remise, notamment. On s'est souvenu de France-Suède, évidemment.
Voilà. Donc,
Hugo Lloris.
Mais bon, je suis sûr que ce jour-là, il a dû lui aussi se poser des questions, mais trouver la solution, parce que ce jour-là, sa relance, il n'a pas été courageux de donner le ballon dans les pieds à un partenaire qui se présentait. Il a fait ce qui aurait plu au public, le boom devant, et le boom devant est tombé sur un adversaire.
Oui, mais le but qu'a mis Toivonen ce jour-là, c'est un miracle.
C'est l'histoire du foot.
Alors hier, toujours, restons dans notre sensibilité gardien. Aujourd'hui, Kepa n'a pas joué, n'est-ce pas? Le fameux gardien de Chelsea.
Il
n'était pas blessé, il était puni.
Blessé mentalement.
Clair. Est-ce que la victoire 2-0 des Blues a offert un sursis à Mauricio Sarri hier?
J'espère qu'ils vont se rendre compte que ce serait une énorme erreur de le sacrifier maintenant, parce qu'il a besoin de temps pour mettre en place sa philosophie. C'est un football à part, c'est un football très technique, de passes, d'enchaînement de passe, et qu'en première ligue, il faut toujours du temps pour s'adapter, pour apprendre un peu le jeu anglais. Guardiola avait eu les mêmes problèmes. Et surtout, ce qui s'est passé avec Kepa lors de la finale de la Coupe de la Ligue a totalement occulté le match de Chelsea, qui avait fait plutôt un bon match en finale. Ça se joue au tir au but face à Manchester City. Ils avaient bien réagi et on n'a parlé que de cette histoire de Kepa, Caballero,
Sarri. Ce qui est important, c'est qu'on voit sur les deux derniers matchs de Chelsea que les joueurs n'ont pas lâché leur coach. Dans ces situations-là, il peut arriver que les joueurs se disent « Oui, c'est vrai, on en a marre, on va un peu y aller doucement pour que ça accélère les choses s'ils sont en difficulté avec leur coach. » Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est intéressant.
Pour le cas Kepa, effectivement, Sarri avait dit que c'était pas grave, que c'était un malentendu, mais il l'a quand même sanctionné, il l'a mis sur le banc. Donc c'est une sanction... Voilà,
il était obligé peut-être aussi vis-à-vis du vestiaire, j'imagine.
C'est une question de respect vis-à-vis de ses prérogatives.
Surtout que justement, ça a occulté beaucoup d'autres choses et que ça, les images ont fait le tour. Vous avez déjà dit comme ça, vous, à votre entraîneur, Joe, je ne sors pas.
Non, mais non, normalement, c'est quelque chose d'inadmissible.
Je crois que c'est pour ça que
Il faut savoir que dans chaque groupe, il y a quelqu'un qui a... Chacun a ses responsabilités, remplacer, faire l'équipe, et tout ça, c'est l'entraîneur. Donc, on peut ne pas être content, mais justement, il faut penser au groupe. Le respect du groupe veut qu'on respecte la hiérarchie. L'entraîneur a dit de faire ça. On va le faire. Maintenant, le seul moment où on ne fait pas forcément ce que l'entraîneur a dit, c'est quand on joue. Puisque lui-même finit toujours par dire, vous êtes sur le terrain, vous pouvez apprécier une situation.
C'est à vous de...
Donc voilà, quand on dit, ah ouais, le corner, on va faire ci, tel va tirer, et sur le terrain, il y en a un qui dit, je le sens bien, laisse-moi, je vais la mettre. L'entraîneur accepte ça. Mais là, il a des crampes, l'entraîneur lui dit il faut sortir, et lui prend le risque de dire non, je ne sors pas. D'ailleurs, quelle que soit la raison, l'entraîneur te dit de sortir, on se serait cru dans un match folklorique.
Était folklorique, même l'italien faisait un peu de cinéma.
Il faut pas faire ça. En plus, aujourd'hui, ça me rappelle l'arbitre Joël Quignou qui un jour à Saint-Etienne me disait, mais Joseph, on ne va plus pouvoir être tranquille sur le terrain avec toutes ces caméras aujourd'hui. Les sons, on peut plus rien se dire. Le son est pris. Et donc là, avec toutes ces caméras, dès que tu fais un truc pareil, ben, il y a toutes les caméras, ça devient le fait du match.
On a parlé que de ça après le match.
Ouais, malheureusement. Allez, on passe à ce qui sera le match du week-end, the match of the weekend en Ligue 1. Avec ce rendez-vous au Vélodrome où deux équipes au passé, disons, plus prestigieux que leur présent actuel,
plus que Paris,
c'est joliment dit, Annie.
Se suivent
plus que le PSG, quoi.
Et en tout cas, elles se suivent au classement, ces deux équipes. Saint-Etienne est quatrième, 2 points devant l'OM. Mais avant, alors messieurs, comme vous avez quand même appartenu au même club, on va faire une petite session rattrapage pour nos jeunes auditeurs, nos stagiaires comme Quentin. On va les replonger un peu dans un passé. Souvenir. Pour vous, Joseph-Antoine Bell, et pour vous, Marc.
C'est Uwe Reinders qui est chargé d'exécuter la sanction que l'on dit suprême. Voilà, c'est parti. Bon. Et il arrête, Antoine Bell l'arrête.
Oh oui.
Joseph-Antoine Bell arrête.
Vous avez vu, il est parti avec les mains derrière le dos, Antoine Bell, pour maintenir son équilibre. Une nouvelle manière qui nous vient directement du Cameroun.
Hommage à Jean-Michel Larquet.
Jean-Michel Larquet, Thierry Roland.
Alors, vous aviez inventé quelque chose que vous avez importé du Cameroun.
Quelque chose que j'ai inventé cet après-midi-là, avant le match.
Alors, en fait, c'était une finale de Coupe de France, c'est ça?
Finale de Coupe de France, Bordeaux-Marseille, et le pénalty de Reinders, oui. Mais le Marseille de cette année-là, en réalité, ne pouvait pas rivaliser, mais ça, c'est la preuve que quand des gens se mettent ensemble...
Vous l'aviez perdu, cette finale.
Oui, on a fini par perdre. Et Joël Quignou est resté mon ami parce que ce jour-là, il avait logiquement fait une grosse erreur. Il avait fait une grosse erreur. Et le deuxième but est venu dessus et j'ai été le seul à accepter son erreur, voilà, parce que son juge de touche avait levé le drapeau suffisamment fort, mais il avait pas sifflé. Et les joueurs marseillais s'étaient arrêtés, et Giresse a marqué, il a validé le but. Et moi, au lieu de m'en prendre à Joël l'arbitre, je m'en suis pris à mes partenaires en disant, mais on ne s'arrête que quand l'arbitre a sifflé.
Et justement, Marc, vous avez un souvenir, votre premier souvenir de Minot et de Joseph-Antoine Bell,
Je n'étais pas encore à Marseille. Ouais. Je ne savais pas que j'allais signer à Marseille, mais c'était 86, cette fameuse finale où il y a ce lob de Giresse. Ouais. Et étant tout petit, on attendait après pour c'était le soir pour aller sortir et jouer au ballon. Et on se rappellerait, on voulait le maillot de jeune. Nous, on s'est dit, quand un gardien était capable de partir en arrière comme ça, on disait il a fait une belle. Parce que ce jour-là, il part, il est au début des 6 mètres. Et Giresse lui fait vraiment, c'est la perfection, une caresse. Et Joseph part. Et on voit qu'il s'étend. Et il finit dans le but, il n'arrive pas à avoir le ballon, quoi. C'était un but d'anthologie. Et même l'image de Giresse après qui part est très touchante. Et cette image-là, j'étais avec mes parents dans la télé, j'attendais pour sortir avec mon ballon. Je me suis dit, bon, je vais partir aller jouer au foot, même si c'est tard, parce qu'il y avait la lumière dehors. Et ça m'est resté gravé à tout jamais. Il y a une autre action, c'est là, je suis remplaçant. C'est avec Marseille, 93-94. Rudy Voleur, qui a été un de tes bourreaux, qui a souvent marqué. Il te chipe le ballon quand tu veux dégager au Vélodrome. J'étais remplaçant. Et Rudy dit avant, il parce qu'à l'époque, le gardien pouvait garder un peu le ballon et avancer. Et il me dit, regarde bien, il est toujours avancé, il va essayer de sortir. Et dès qu'il sort, je vais prendre le ballon, il me dit.
Mais c'est possible, Rudy. Marc, qu'est-ce que tu as retenu de ce truc?
J'avais jamais vu ça, moi.
Et il faut donc savoir que c'était une faute.
J'ai jamais vu ça.
Et tu l'as jamais revu, parce que, comme par hasard, la semaine, en début de semaine, j'étais à une réunion de la FIFA et j'avais ça en travers la gorge que dans toute la France, il n'y a que moi pour connaître le règlement. Vous ne pouvez pas empêcher un gardien de dégager.
On ne peut pas faire écran.
Joseph, est-ce que si c'est pas à Marseille, il siffle si c'est pas à Marseille?
Ce serait sifflé, justement, à l'époque, c'est ça le problème. C'est qu'il y avait, je ne veux pas recommencer ça, mais il y avait un ministre qui avait tout pourri. Et donc là, même les journalistes ont inventé.
C'est bien fait.
Ont inventé un français tordu pour dire qu'on pouvait prendre quelque chose sans bouger. Ils disaient, on ne bouge pas quand un gardien dégage, mais Voleur a pris le ballon sans bouger.
Elle était bien faite quand même. Elle était bien chippée.
Donc j'arrive à la FIFA et j'avais ça dans la tête. Mais eux, je sais pas, eux aussi avaient carrément préparé la cassette. Donc quand on finit la réunion et que je dis que j'ai une question à poser, avant que je ne la pose, ils ont mis les images pour que tout le monde regarde. Et la France a été la risée de tout le monde. Puisque le joueur qui chippe le ballon à un gardien qui veut dégager doit se prendre un carton. Et depuis ce jour-là, pourquoi ça n'arrive plus? Parce que les arbitres l'appliquent systématiquement. Vous ne pouvez pas enlever le ballon. D'ailleurs, à un moment, il faut se rappeler, même sur les rentrées de touche. Sur les longues rentrées de touche, les entraîneurs avaient cru avoir trouvé la parade. On vient sauter devant celui
qui... On se met devant et on n'est pas le droit.
Non, c'est pas, interdit. Vous pouvez pas. C'est une remise en jeu. Il faut le laisser remettre en jeu. Le gardien s'est saisi du ballon, il va dégager et vous ne pouvez pas vous mettre à côté pour lui chipper le ballon en disant
il
non.
Il m'a prévu, Rudy Voleur m'a dit tu vas voir, je vais essayer parce qu'il avance et il sortait à l'époque, le gardien sortait avec la main, ils avançaient le plus possible.
Un autre petit document sonore et puis bien, on parlera de l'enjeu du match peut-être plus tard.
Quelle ambiance il y avait avec Joseph-Antoine Bell avant ce match?
Il a préparé son match comme tous les matchs, je crois qu'avec le sérieux qu'on lui connaît, je crois qu'il a dû apprécier cette victoire.
Ah oui, ça il l'apprécie. Regardez-le, Joseph-Antoine Bell, face aux supporters qui ont garni le chaudron ce soir et qui le saluent pour la dernière fois. Quel souvenir!
93-94, Joseph-Antoine Bell, Saint-Étienne, Lyon, c'est David Finzel qui a trouvé ça dans les archives. Et une victoire dans le fameux derby.
3-0.
Et le capitaine qui parlait, qu'on entendait, qui parlait de vous, c'était Laurent Blanc.
Oui, absolument.
Capitaine des Verts.
C'était Lolo,
Vous avez connu le Vélodrome, mais vous avez aussi connu le Chaudron. Et on sait que le Chaudron, c'est chaud.
Les deux, mais j'ai connu les deux dans les deux situations. Venant de Marseille, venir au Chaudron, c'était. Ouais. Mais moi, le Chaudron me motivait, justement, quand je venait de Marseille. Et on a gagné, je me rappelle, on a gagné une fois avec but de Foster qui a frappé de 3 mètres. Ce stade-là est spécial. Avec ce public qui est au-dessus des joueurs, un bruit infernal, mais moi, ça me motivait.
Et ben voilà, merci beaucoup messieurs et on évoquera demain l'enjeu du match qui nous attend dimanche soir en Ligue 1. Merci beaucoup Joseph-Antoine Bell. Revenez, repassez à Radio
Foot. Je vais revenir.
J'espère. Merci Marc, merci, Patrick et Bruno. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé aujourd'hui. À demain.